Général Cotte, pouvez-vous nous raconter en quelques mots votre parcours de militaire?
On va dire qu'il est assez atypique. Hein. Je n'ai pas de militaire dans ma famille, aucun. Mon père a été fusillé par les Allemands quand j'avais 10 ans. Et c'est ça qui est à l'origine de ma vocation militaire. Non pas du tout par vengeance, mais avec la conviction qu'il ne fallait pas du tout que ce genre de choses se reproduisent jamais. Donc c'est comme ça que je suis devenu soldat. Et puis ensuite, à l'adolescence, je me suis rattaché à la pensée d'un Lyautey, du maréchal Lyautey, grand pacificateur au Maroc, comme vous savez, mais qui avait aussi écrit un livre très connu à l'époque qui s'appelait « Le rôle social de l'officier ». Et puis j'ai continué sur cette façon de voir la chose militaire, en général, on va dire, et avec la conviction qu'on est bien obligé de faire la guerre quand on ne peut pas faire autrement, mais que ça n'est pas une raison pour la faire n'importe comment. Et je suis absolument convaincu depuis toujours que la guerre, c'est une chose assez épouvantable pour ne pas en rajouter. Et j'ai terminé donc mon parcours de soldat, puisque c'est la question que vous me posez. Je raccourcis beaucoup, parce que ça a duré 41 ans, hein, avec la Yougoslavie, où j'ai commandé la force de protection des Nations Unies. Et là, je me suis colté, on va dire, ou coltiné, comme vous voudrez, avec la guerre des autres et avec la conviction, là encore, que la guerre, c'est pas toujours ce qu'on croit. Et on a voulu faire, alors là je sors un peu de votre question, mais on a voulu faire accroire aux gens qu'il s'agissait en Yougoslavie, comme dans beaucoup d'autres régions, y compris en Syrie aujourd'hui, qu'il s'agissait là de communautés qui étaient totalement inconciliables et qui ne pouvaient que se haïr et s'entretuer. C'est pas du tout mon sentiment. La Yougoslavie que j'ai vécue de très près, j'ai la conviction que c'était des gens, des Croates, des Serbes, des Bosniaques musulmans qui pouvaient et qui peuvent encore vivre ensemble, si on voulait bien ne pas perturber complètement leur vie. C'est raccourci, mais voilà en gros pourquoi je suis soldat.
D'accord.
Ou que je ne suis plus soldat. Mais...
Et alors justement, donc aujourd'hui, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Un monde en paix », hein, qui est un livre extrêmement optimiste et qui peut être un petit peu surprenant dans le climat de pessimisme actuel. Hein. Il y a beaucoup de conflits intra-étatiques, il y a des tensions dans certaines zones du monde... Je ne parle pas de la montée des mouvements terroristes. Et comment, dans ce contexte, qui est quand même assez noir, est-ce que vous analysez le rôle des institutions chargées de faire régner la paix dans le monde ?
Vous savez, d'une façon plus générale et au-delà même du phénomène de la guerre et des conflits dans le monde, vous voyez bien comme moi qu'on est dans une période où on est littéralement drogué, je dirais, au pessimisme et au déclinisme. Il y a des gens d'ailleurs qui en font profession, hein, et qui en font leur chou gras au propre et au figuré, et qui s'appellent Houellebecq, Zemmour et compagnie. C'est facile. Hein, on est dans une période difficile, mais c'est toujours facile d'en rajouter. Et je ne suis pas de ceux-là. Hein, je suis sans doute optimiste de nature, mais je crois que mon optimisme se fonde sur des faits. Et s'agissant de ces conflits dont vous parlez, des études très sérieuses ont été faites, en particulier des études canadiennes, pour montrer que sur la longue durée, hein, sur le long terme, eh bien les conflits, leur nombre, leur intensité, le nombre des victimes, y compris les victimes collatérales de civils, sont de moins en moins nombreux par rapport au passé. Hein. On se tue toujours, hélas, hein, mais j'ai envie de dire on se tue de façon plus localisée et de façon moins... un peu moins sauvage qu'auparavant. Mais c'est très difficile de faire croire ça aux gens. Parce que quand vous êtes comme ça, chez vous, devant la télévision, vous avez littéralement le nez dans le guidon. Et vous ne voyez que la Syrie où on massacre, etc. Mais si vous voulez bien regarder ça sur le long terme, et même, alors là, c'est presque de la philosophie, sur la marche de l'humanité sur le long terme, vous verrez, mais vous vous convaincrez, ou je vais essayer de vous convaincre par ce bouquin, que non, l'humanité ne marche pas plus mal qu'auparavant. Et qu'on est peut-être, je le crois, je l'espère en tout cas, sorti des énormes massacres qui se sont appelés les guerres mondiales ou la Shoah ou beaucoup d'autres catastrophes de ce genre. C'est là-dessus que je fonde. C'est pas parce que je suis un optimiste béat, c'est parce que je regarde les choses, je lis l'histoire. Mais quand vous êtes, encore une fois, le nez dans le guidon, vous pouvez pas vous abstraire de ce qui se passe dans l'instant en lisant votre journal. Et par conséquent, vous passez à côté de raisons d'espérer. Et c'est ces raisons d'espérer que j'essaie de mettre dans ce livre.
Mais dans le livre aussi, vous analysez justement comment les institutions comme l'ONU ou l'Union européenne pourraient un petit peu se réorganiser, restructurer pour maintenir la paix.
Ouais. Je dis dans ce bouquin qu'on peut voir les choses par le haut, par le bas, la paix. D'abord par le haut, par le bas. Par le haut, ce sont en effet les institutions internationales et en premier lieu l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. J'ai beaucoup critiqué l'ONU dans le passé, dans d'autres livres, pour savoir ses faiblesses énormes. Mais je suis absolument certain qu'il faut qu'on la fasse vivre, y compris contre ceux qui veulent la faire mourir, à commencer par les Américains, que l'ONU gêne pour des tas de raisons. Donc l'ONU, il faut l'aider à survivre, et ce n'est pas facile. Et je regrette beaucoup que dans toutes les opérations de l'ONU maintenant, qui est compte tenu du fait que nous, les Européens, nous avons été échaudés, comme en Yougoslavie, comme au Rwanda, comme en Somalie et ailleurs, nous ne voulions pas plus nous engager avec nos propres soldats européens. C'est quand même regrettable. Alors ça, c'est l'approche de la paix par le haut. Il y a énormément de choses à faire à l'ONU. Je détaille ça dans un grand chapitre de ce bouquin. Mais il y a aussi le bas, qui me paraît, l'approche de la paix par le bas, qui me paraît au moins aussi importante. Et l'approche de la paix par le bas, c'est en dehors de toutes les institutions, les gouvernements, l'ONU. C'est la montée, là aussi, c'est une conviction que j'ai depuis très longtemps, la montée de ce que j'appelle dans ce bouquin la conscience universelle, y compris la conscience de paix. Je crois avec Teilhard de Chardin, qui est un homme beaucoup trop oublié à mon goût aujourd'hui, je crois avec lui que tout doucement, du bas, monte la conscience, non pas seulement qu'on est français ou européen, mais même qu'on est des citoyens du monde et que la paix est sans doute un des objectifs majeurs de cette conscience. Et on la voit surgir de beaucoup de manières. Mais pour me résumer, lorsque vous voulez bien compter le nombre de ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales, les ONG, mais il y en a des milliers et des milliers, peut-être même des millions dans le monde. Et rien qu'en Yougoslavie, théâtre que je connaissais le mieux, il y en avait plusieurs centaines. Eh bien, je considère que ces ONG, dont on a pu parfois critiquer un peu, je considère que ces ONG sont véritablement les avant-gardes de cette conscience universelle. Et vous verrez, quand on se reverra dans un siècle ou deux, je suis convaincu que l'humanité aura avancé. Mais je fais quand même une petite parenthèse. Un Teilhard de Chardin que j'ai beaucoup pratiqué, je ne l'ai pas connu vivant, hein, mais que j'ai pratiqué dans ses livres, faisait beaucoup de conférences, comme moi. Et il disait en particulier, on lui posait souvent la question, mais attendez, dans votre histoire d'humanité qui monte vers un point oméga, qui est pour lui un point mystique, hein, où est-ce que vous placez Hitler là-dedans, hein? Ça voulait dire qu'on lui dit, tu nous racontes des coups, mais comment tu expliques Hitler? Et lui, il répondait, mais vous savez, avec beaucoup d'ironie, il disait, mais vous savez, quand un alpinisme monte très haut dans l'Himalaya, par exemple, hein, lorsqu'il se casse la gueule, parce qu'il avait parfois des mots comme ça, lorsqu'il se casse la gueule, évidemment, il tombe de très haut. Et bien Hitler, c'est une chute. Mais on va s'en relever, on va continuer de monter.
Très bien, ah, merci.